Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR.
France Inter. Le 18-20.
Lorsqu'il me tapait, je me suis mis à genoux, je les ai attrapés le pied, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait. Il me dit, tais-toi, tu es un black.
La scène se passe à Tanger, ce sont les migrants subsahariens qui subissent ce que vous entendez, pendant que d'autres décident de rester parce qu'un programme a été monté pour essayer de les dissuader de passer la Méditerranée. On vous y emmène et c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Également le recensement des États-Unis et une affaire d'aubergines volées en Italie qui a nécessité 9 ans de procédure. C'est Florence Paracoulos et Sous les radars, 18h50, le cinéma en VO. Eva Béton a vu The Rider, une histoire de rodéo, de Sioux et de Dakota. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger, les suites pour Poutine de l'incendie terrifiant de Sibérie occidentale. Mais avant, il est donc descendu de son wagon blindé avec des discours de dénucléarisation. Il a commencé en Chine. Ses rendez-vous à venir, c'est Kim Jong-un, notre client du jour. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Le fond, évidemment, on va y venir tout de suite, mais la forme a aussi un sens. Il y a du décorum, il nous y a habitués, mais cette fois, c'était une belle fois aussi, on va dire, ce sacré Kim Jong-un. Bonsoir, Juliette Morillo.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de la Corée du Nord. Vous avez notamment écrit avec Dorian Malovitch Le Monde selon Kim Jong-un, et c'est publié chez Robert Laffont. On va discuter ensemble de ce qui s'est passé entre le dirigeant chinois et Kim Jong-un, peut-être première étape de... première étape d'autres rendez-vous qui vont être importants. Juste avant, je voudrais qu'on aille faire un aller-retour à Pékin, justement, rejoindre Dominique André, voir comment le président nord-coréen a été reçu lors de cette visite. Vous nous direz d'ailleurs si c'était une visite surprise ou pas. On écoute Dominique André d'abord.
C'est une visite officieuse mais historique dont le protocole ressemble à celui d'une visite d'État. Le gouvernement chinois l'a mise en scène comme il sait le faire. La télévision officielle diffuse les images de la réception au Palais du Peuple place Tiananmen avec Xi Jinping et son épouse. Le couple présidentiel chinois accueille avec le sourire Kim Jong-un et sa jeune épouse. L'hymne national nord-coréen a été joué. C'est un tournant, a commenté l'agence de presse officielle nord-coréenne. Et du côté de la Chine, comment est analysée cette visite par les spécialistes de la Corée du Nord? Voici l'analyse de Cheng Xiaore de l'Université du Peuple à Pékin.
Je pense que cette rencontre est une réussite. Après une longue période de difficultés dans les relations entre la Chine et la Corée du Nord, il y a la volonté évidente d'une normalisation. Les discussions sur le plan politique au plus haut niveau ont été interrompues pendant 7 ans. Mais là, ça va repartir. Et Xi Jinping aura une occasion pour aller en Corée du Nord un jour. Kim effectuera aussi un voyage officiel à Pékin. Cette normalisation politique va favoriser les discussions entre les pays ainsi que la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cela aura une influence positive pour le futur dans la péninsule.
Kim Jong-un a en tout cas confirmé qu'il irait au sommet avec les États-Unis et la Corée du Sud. Les Sud-Coréens sont dans les préparatifs de ce sommet à trois qui aura lieu fin avril, peut-être dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Quant au sommet en tête-à-tête entre Kim Jong-un et Trump, il pourrait avoir lieu début mai.
Merci beaucoup Dominique André. Donc à Pékin, Juliette Morillo, on parlait de tournant à l'instant, on entendait ce monsieur de l'Université du Peuple dire que tout ça s'est extrêmement bien passé. Je posais la question précédemment, c'était une surprise ou pas? Alors pas pour Xi Jinping j'imagine, mais pour nous, pour vous, est-ce que c'est une surprise cette rencontre?
Ça montre simplement, je pense que ça a été décidé après la décision de ce sommet entre Kim et Trump, et que c'est important pour la Chine maintenant de rentrer à nouveau sur l'échiquier. Et d'ailleurs, on voit très bien que maintenant, tous les protagonistes vont revenir sur le devant de la scène. Et ça ne va pas se passer uniquement entre Kim et les États-Unis, puisque en parallèle, là, il y a cette offensive donc vers Pékin. En parallèle, la Corée du Nord envoie quand même son ministre des Affaires étrangères à Moscou. Donc vous allez avoir finalement les 6 protagonistes importants de la table de la dénucléarisation qui vont se retrouver ici, les 6, c'est-à-dire la Corée du Sud, la Corée du Nord, les États-Unis, la Russie, la Chine et le Japon.
Mais alors, Kim a pris la main là? Est-ce qu'il a pris la main, Kim Jong-un? Ou est-ce que Xi Jinping, en revenant dans le jeu, a pris les rênes, si je puis dire? Qui a la main là-dedans?
Je pense que là, c'est la Chine qui a souhaité également revenir dans le jeu. C'est-à-dire, jusqu'ici, tout s'était passé un petit peu en dehors de Pékin. Et maintenant, elle revient. Ceci dit, Kim, il ne faut pas l'oublier, a toujours voulu dialoguer en bilatéral avec les grandes puissances. Quand on parle de grandes puissances, on pense toujours, bien évidemment, à Washington. Mais la Corée du Nord veut aussi parler d'égal à égal avec la Chine et être considérée comme un véritable interlocuteur et pas simplement comme le petit allié, petit frère qui fait les essais nucléaires, qui est un trublion sur la scène internationale.
Mais simplement, les deux pays étaient quand même en froid. Alors, est-ce que c'était un froid de façade ou pas? Mais on a bien vu que Kim Jong-un agaçait terriblement la Chine et que pour une fois, la Chine a voté des sanctions, ce qu'elle fait quand même rarement, pour ainsi dire jamais. Est-ce que c'était de la façade, tout ça? Donc, est-ce qu'on parle de réconciliation entre les deux pays ou pas?
Disons que fondamentalement, la Chine et la Corée du Nord sont des alliés. Et la Chine ne laissera jamais tomber Pyongyang. Inversement, paradoxalement, Pyongyang ne fait pas 100% confiance à la Chine, justement en raison des sanctions. Cependant, les deux ont des intérêts communs et ils ont envie de les préserver. On peut d'ailleurs se demander si lors de ce sommet, de cette rencontre entre Xi Jinping et Kim Jong-un, peut-être ont-ils parlé aussi des sanctions qui frappent la Corée du Nord, qui frappent la Chine. Il y a des questions commerciales également entre la Chine et les États-Unis. Donc c'est peut-être une reprise en main aussi de l'extrême-Orient qui se recentre sur lui-même, avec aussi Kim qui finalement se fait parrainer par la Russie et la Chine pour rencontrer les États-Unis.
J'allais vous demander, est-ce que c'est pour ça aussi que Poutine rentre dans le jeu, qu'il faut absolument qu'il soit là? Parce que là aussi, lui aussi regarde vers cette partie du monde-là, en fait, finalement, plus que vers l'autre côté, non?
Oui, alors, c'est amusant parce que mon professeur de fac, André Fabre, à Langzhou, disait toujours que la Russie, c'était comme l'aigle des tsars qui regardait vers l'Occident et qui regardait vers l'Orient. Et c'est exactement ce que fait Poutine, bien évidemment. Il veut être aussi dans cette partie du monde, lui aussi un des intérêts avec la Corée du Nord. Et d'ailleurs, la Corée du Nord est très proche de Moscou. Quand j'étais à Pyongyang, on m'a répété plusieurs fois que probablement de tous les acteurs internationaux, ceux qui comprenaient le mieux ce que voulait la Corée du Nord, c'était la Russie. Il y a des liens économiques et quand la Chine resserrait un petit peu la vis pour les sanctions et tous les liens commerciaux, la Russie, elle, a continué, par exemple, l'envoi d'énergie.
Alors, mais est-ce qu'on joue, est-ce que d'une certaine façon, Kim Jong-un joue aussi la rivalité, les Russes, les Russes contre les Chinois contre les Russes, ou alors est-ce qu'on est dans une image plus large, c'est-à-dire les Russes et les Chinois contre les États-Unis, et là le camp a été choisi évidemment par Kim Jong-un. Alors, c'est quoi le jeu de taquet là-dessous?
Je pense que c'est un petit peu des deux. Il est évident que la Corée du Nord joue diplomatiquement, et on le voit maintenant, joue finalement assez diplomatiquement cette partie sur la dénucléarisation. Mais je pense en effet qu'il y aura dans un premier temps un bloc probablement Russie, Chine, Corée du Nord face aux États-Unis. C'est en quelque sorte les parrains de la Corée du Nord.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Kim quand même depuis le 1er janvier, depuis cette fameuse trêve olympique? Est-ce que c'est un diplomate beaucoup plus fin que ce qu'on imaginait? C'est des choses qu'on a eu l'occasion de dire déjà pendant la guerre des tweets, on va dire, avec Trump. Ou est-ce qu'il essaye tout simplement d'assouplir les sanctions pour mieux recommencer derrière? Enfin, qu'est-ce qu'il a derrière la tête, ce garçon?
Encore une fois, je pense qu'il y a un petit peu de tout, mais je pense en effet que c'est surtout un fin diplomate. Il a déjà démontré à tout le monde, alors non seulement au peuple de Corée du Nord, qu'il possédait l'arme nucléaire, qu'il était capable de défendre le pays contre la menace américaine. Il a réussi dans une certaine mesure à finalement, maintenant dans les médias, passer pour un véritable chef d'État. On ne parle plus forcément de dictateur, on l'accueille comme un véritable chef d'État. Il a transformé son image. Alors cela, il est un petit peu aidé par Trump qui, par ses tweets intempestifs, finalement, se dévalorise. Mais lui, du coup, a changé son image. Donc on peut dire qu'il a réussi. Ceci dit, dénucléarisation, le chemin est encore extrêmement long.
Alors on va y venir effectivement à ça. Juste un mot encore là-dessus. Est-ce que c'est lui le fin diplomate ou est-ce que c'est autour de lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire des ficelles? Est-ce que c'est vraiment que lui, en fait, qui est en train de prendre cette initiative?
Alors, je pense que tout se passe au sein de la famille Kim, c'est-à-dire lui, sa fameuse petite sœur qu'on a vue au moment des Jeux Olympiques, Kim Yo-jong, mais il est également entouré de ministres, par exemple le ministre des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, qui va aller dans quelques jours à Moscou, est un diplomate chevronné, extrêmement fin, qui a été autrefois représentant de la Corée du Nord, ambassadeur à Londres. Et toutes les personnes qui l'ont rencontré disent que cet homme est extrêmement fin, très aguerri à la diplomatie occidentale. C'est pas un va-t-en-guerre, c'est quelqu'un véritablement fin qui maîtrise toutes les ficelles. Et ça, je pense qu'on a sous-estimé ça de la part de la Corée du Nord.
Alors Juliette Muriot, dénucléarisation, d'accord, mais j'ai envie de dire pourquoi faire? Parce que ça fait 40 ans que la Corée du Nord joue sur cette arme nucléaire. Kim Jong-un nous a expliqué d'un essai à l'autre, voilà ma force, voilà ce que je suis capable de faire. Et maintenant, il dirait, on va dénucléariser toute la péninsule.
C'est vrai que c'est un petit peu difficile à croire après autant d'années, puisque toute sa politique est basée là-dessus. En même temps, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un dialogue bilatéral avec Washington. Ceci dit, maintenant, tout va se jouer dans les garanties que chacun va vouloir donner. C'est pour ça que je vous dis que le chemin va être très long. La Corée du Nord, derrière tout ça, veut la garantie de sa propre survie et des garanties de sécurité extrême. Et c'est là que le bât blesse, parce que derrière ce pacte de non-agression que souhaiterait la Corée du Nord de la part des États-Unis, vous avez bien évidemment le départ des troupes américaines de la région, c'est-à-dire du sud du 38e parallèle sur la péninsule coréenne, probablement d'Okinawa. Et je ne pense pas que les États-Unis soient prêts à abandonner cet avant-poste en Extrême-Orient, parce qu'après, ce serait laisser le terrain à la Chine. Faut pas oublier que derrière Pyongyang, vous avez Pékin. Et face à la montée en puissance chinoise, notamment en mer de Chine du Sud, les États-Unis veulent garder leur position là-bas. Et forcément, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont accepter de se retirer? Quelle garantie de sécurité Pyongyang va-t-il accepter? C'est là que toutes les subtilités vont commencer à arriver. Je pense que dans un premier temps, il va y avoir un accord de transparence avec autorisation, par exemple, d'inspection des inspecteurs de l'AIEA sur les sites nucléaires nord-coréens. Tout ça va se faire par étapes, mais le chemin est véritablement encore très long.
Ça veut dire que, donc, effectivement, si les Coréens du Nord demandent à ce que les Américains partent, c'est pas demain la veille, il va y avoir une demande de calendrier détaillé, j'imagine, de l'autre côté, c'est quelque chose dans ce goût-là?
Je pense qu'il y aura un calendrier détaillé, que dans la pratique, il y aura ce fameux double moratoire, bien évidemment, arrêt des essais nucléaires balistiques et de l'activité nucléaire, en échange de quoi il y aura probablement un ralentissement des manœuvres militaires américano-sud-coréennes conjointes. Mais tout ça va prendre extrêmement de temps, avec une feuille de route qu'à mon avis, tout le monde est en train d'examiner. Et puis, il faut s'interroger aussi sur la nouvelle diplomatie américaine.
Alors voilà,
avec
Mike Pompeo, John Bolton, effectivement, l'équipe a changé, plus dure, une ligne même très dure. C'est John Bolton qui a dit concrètement qu'il fallait, je ne sais pas quels étaient ses termes exactement, mais quelque chose du genre, il faut se débarrasser de la Corée du Nord. Enfin, c'était aussi raide que ça, on va dire. Est-ce qu'il est prêt à ce genre de discussion, ou est-ce qu'il peut faire capoter même cette rencontre avec Trump?
Je pense pas que Bolton fera capoter cette fameuse rencontre. Et je pense que Kim, finalement, en se rapprochant de Xi Jinping et de Poutine, lui aussi, finalement, s'entoure bien. C'est-à-dire, face à l'équipe Trump, Bolton et Pompeo, on a Xi Jinping, Poutine et Kim. Ça va mettre du temps. Bolton avait été notamment très suspicieux des accords, des premiers accords entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donc le chemin est véritablement long, mais pour l'instant, peut-être que Bolton s'intéressera plus à l'Iran qu'à la Corée du Nord.
Les Américains peuvent craindre, c'est ce qu'ils ont craint jusqu'à présent d'ailleurs, de tomber dans un piège, en gros, de se faire manipuler, de se faire prendre par le bout du nez, à la fois par les Chinois, par les Russes, non? Le danger, il est exactement là ou pas?
Bah oui, tout le monde a peur que ça reprenne. Et c'est en cela que la COSAN, une sorte de jeu de poker monteur, c'est-à-dire chacun va plus loin, maintenant on est véritablement engagé. Je pense que la Corée du Nord est sincère dans sa volonté de dénucléarisation, mais encore une fois, les conditions sont extrêmement difficiles à réunir, parce qu'en plus, la Corée du Nord va bien évidemment demander une levée des sanctions internationales.
C'était ma dernière question, est-ce que discuter, c'est lever les sanctions, ou pas du tout? On en est très loin.
Probablement lever progressivement les sanctions, de façon à laisser une soupape de survie à la Corée.
Corée du Nord. C'est une des premières choses qui sera négociée.
Une dernière chose, Juliette Muriot, où est-ce que ça peut se passer, donc, cette rencontre? On parlait de la DMZ, donc la zone démilitarisée au milieu entre les deux Corées. Ça paraît cohérent ou pas?
Beaucoup de pays se sont proposés. Mmh. On peut penser également à la Suisse, où Kim Jong-un a passé une partie de son enfance. La Suède s'est proposée aussi. Probablement que l'endroit le plus neutre serait en effet tout simplement dans la JSA, qui se trouve, qui est cette parcelle qui se trouve à cheval sur les deux Corées, ces trois fameux bâtiments bleus.
Voilà, où on peut regarder la Corée du Nord, la Corée du Sud, chacun s'envoie des messages, comme ça chacun sera un peu chez soi. Ça vous donnera l'occasion de revenir dès le mois de mai, donc pour cette fameuse rencontre. Juliette Muriot, spécialiste de la Corée du Nord, merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe à Tanger avec Thibault Lefebvre et des migrants qui vivent sous la menace des policiers. Florence Paracuelos est sous les radars, nous explique qu'une question a été rajoutée au recensement des Américains. Vous verrez que c'est une question sacrément importante. Le ciné en VO, c'est Eva Bétan qui a vu The Rider de Chloé Zhao et puis Anthony Bélanger. L'édito de 18h55 avec la Russie qui pleure ses morts, mais l'onde de choc va très près du pouvoir.
Oui, elle va très près du pouvoir parce que s'il y a un problème de corruption en Russie, il y a un problème aussi d'infrastructure. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Qu'est-ce que ce drame, le drame de Kemerovo, dit de l'état des infrastructures russes.
Allez, à tout de suite, le tour du monde n'est pas fini. Dans Un jour dans le monde, il nous emmène à Londres avec Noël Gallagher. Gallagher, High Flying Birds sur France Inter. Florence Paracuelos est là, sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un
jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence, aux États-Unis d'abord, où la bataille du recensement a commencé.
Le recensement de la population a lieu tous les 10 ans aux États-Unis. Le prochain aura lieu en 2020. Et une question a été ajoutée. Are you a US citizen? Êtes-vous citoyen américain? L'administration Trump affirme que c'est pour compter le nombre d'électeurs. Mais tous les démocrates montent au créneau. Ils pensent que ça va faire peur aux immigrés, les dissuader de répondre, eux qui sont régulièrement stigmatisés par Donald Trump. Ils pensent que Trump en est bien conscient et que c'est pour ça qu'il le fait, dans l'idée d'affaiblir les États démocrates. En premier lieu, la Californie. Alex Padilla est l'un de ces sénateurs démocrates de Californie. La Californie, c'est l'État le plus peuplé, le plus divers et celui qui compte le plus d'immigrés aux États-Unis. Si on sous-estime le nombre de ses habitants, ça veut dire qu'on aura moins de financement fédéral pour les transports, les routes, l'éducation, la santé, le logement, etc. Et très opportunément, ça peut jouer sur notre présence au Congrès si la Californie perd des sièges à cause de cette sous-estimation. C'est ça l'objectif de Trump. On va résister, dit Alex Padilla, et les démocrates s'appuient sur une étude du bureau de recensement et sur d'anciens directeurs du service qui doutent de la confidentialité des informations récoltées dans ces conditions. Et vu le contexte, même si vous avez un permis de séjour, vous n'aurez pas très envie de répondre aux questions de l'État, on ne sait jamais. On a vu récemment des gens expulsés qui avaient un statut de résident. Donc moins de population égale moins de représentants au Congrès. Le procureur général de Californie a déposé plainte. Cette question de citoyenneté, selon lui, viole la Constitution et la Californie a trop à perdre.
Nous partons pour l'Italie, Florence, et 9 ans de procédure pour une aubergine.
Une simple aubergine, un homme l'avait cueillie dans un champ qui n'était pas le sien, dans les Pouilles en 2009. Les carabinieri étaient passés par là et l'avaient surpris. Lui avait expliqué qu'il était au chômage et qu'il avait un enfant à charge. Ça n'a pas ému la police ni la justice, qui l'a condamné une première fois à 5 mois de prison et 300 euros d'amende, une deuxième fois en appel à 2 mois de prison et 120 euros d'amende, avant que la Cour de cassation finisse par l'acquitter cette semaine, tout en regrettant que les juges, avant elle, n'aient pas eu plus de clairvoyance. Toutes ces années de procédure qui auraient pu être évitées, et ces 8000 euros de frais d'avocat supportés par le contribuable, tout ça pour une simple aubergine cueillie dans un champ.
Allez, le progrès fait rage, comme dirait quelqu'un qui a longtemps travaillé sur Inter. Pour finir, une chanson en forme de message à la jeunesse ivoirienne.
C'est Claude Issiard qui en fait la promotion. Claude Issiard, voix emblématique d'RFI avec son émission Couleur Tropicale, star de l'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui présente The Voice Afrique francophone et qui nous fait écouter Promi Prumata, chanteur ivoirien. Voici son message. À l'heure où des milliers de ses compatriotes prennent les routes clandestines de l'Europe, où près de 2000 d'entre eux ont été rapatriés de Libye l'an dernier après des mois d'errance et de mauvais traitements.
Restons un peu chez nous, apprenons à réfléchir. Restons un peu chez nous, apprenons à développer. Restons un peu à la maison, l'Afrique a besoin de nous.
Apprenons à développer, l'Afrique a besoin de nous. Et Promi Prumata de faire la liste de ce qui attend les candidats à l'exil, le marché noir des hommes, comme il dit, les coups et la misère au bout du chemin. Restons chez nous. C'est aussi le message du prochain festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire au mois d'avril. C'est un très gros festival. 14 artistes très populaires en Afrique chanteront contre le fléau de l'immigration clandestine en Europe. 150 000 spectateurs attendus à ce festival.
Florence Paracuello, sous les radars, merci beaucoup. Et justement, les coûts, la misère pour les migrants, ceux qui essayent de traverser, de passer de l'autre côté de l'Europe, ça nous amène directement au reportage du jour.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Car c'est à Tanger que nous sommes ce soir dans l'escale reportage. Tanger, le cul-de-sac de l'Afrique. C'est là que se cogne la tête ceux qui arrivent de l'Afrique subsaharienne, ceux qui fuient la Libye aussi, Florence en parlait à l'instant, ceux qui traversent l'Algérie sans s'y attarder, arrivent ici dans l'espoir d'un passage en Europe qui souvent ne se fera pas ou pas avant longtemps. En tout cas, bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Fabienne.
Alors Thibault, Tanger, ce sont des coups, des sévices infligés par la police marocaine, et dans le même temps, c'est aussi une politique de tentative pour de fixer les migrants en les régularisant. Ce sont des rencontres avec ceux qui choisissent encore l'Europe ou ceux qui choisissent de rester, que vous nous proposez, et on vous écoute Thibault.
<t'en>
Ils sont 8, répartis dans 2 petites pièces d'une douzaine de mètres carrés chacune. 6 Camerounais, 2 Guinéens et 1 Ivoirien, 5 majeurs et 3 mineurs. Ils ont trouvé refuge dans un immeuble vétuste de la Médina de Tanger. Ils paient 210 dirhams chacun, une vingtaine d'euros par mois, pour louer une chambre sans fenêtre avec des murs en terre qui suintent, partager un matelas et 2 banquettes humides. Il y a encore quelques mois, ils squattaient un appartement abandonné de Boukalef, un quartier populaire périphérique qui accueille beaucoup de migrants subsahariens. Ils disent y avoir été traqués, violentés, régulièrement expulsés par la police marocaine. La Médina est plus sûre, selon Christ, 18 ans. La présence des touristes protégerait les migrants des exactions policières. Et pourtant, il y a un mois, cet Ivoirien a été agressé.
Ce jour-là, j'avais faim. J'étais obligé de sortir pour devoir mendier. Lorsque je tentais de mendier, et un policier m'a arrêté. Il ne m'a pas posé de questions, rien. Il m'a juste arrêté. Il m'a mis dans leur fourgonnette. Ils m'ont mené dans la forêt. Ils m'ont tabassé comme ce n'est pas permis. Ils m'ont tabassé franchement, sauvagement, comme si je n'étais pas un être humain. J'avais mal partout. J'ai même encore des cicatrices là. J'étais 3 et j'étais seul. Lorsqu'ils me tapaient, je me suis mis à genoux. Je les ai attrapés le pied. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché juste à manger. Il me dit, tais-toi, tu es un black. La plupart des blacks que vous allez croiser, ça ne peut pas la même chose qu'ils vont vous dire. Parce que c'est notre quotidien. Tout est raciste, tout. C'est un calvaire pour nous.
Assis sur un petit tabouret en plastique rose, entre une Bible à son nom et un pot d'huile d'argan, un Camerounais de 26 ans que Christ appelle son grand frère. Caris circule au Maroc avec une attestation de demande d'asile et même s'il rêve d'Europe, il a entamé des démarches auprès du Haut Commissariat aux réfugiés pour ne plus subir de violences policières. Mais au Maroc, les papiers ne protègent pas vraiment. Caris vit depuis un peu moins d'un an à Tanger et à 3 reprises, il a été arrêté et envoyé à Tiznit, c'est à la lisière du Sahara, au sud du pays.
Nous sommes menottés dans les bus. Quand vous devez acheter à manger, ils mettent le somnifère. Parce qu'avant, les amis faisaient des autres. Quand on les arrête, ils cassent les vitres du bus. Maintenant, on met les menottes. Quand il n'y a pas assez de menottes, on nous donne un peu de nourriture, mais le somnifère à l'intérieur. Puis vous vous endormez. Donc tu es même comme un fou. Dès que tu te réveilles, mais tu te retrouves en plein désert. Tu ne sauras même pas l'autre vie. Comment tu vas faire pour remonter vers Tanger? C'est pas facile. On a mis dans le cœur qu'on va aller en Europe. On ne fait qu'insister. On ne fait qu'insister. Pourquoi je ne peux pas nager comme le canard ou bien m'envoler comme l'oiseau pour atterrir à Tarifa, la première ville de l'Espagne? Par la grâce de Dieu, on va insister comme des hommes, comme des militaires au front et ça va aller.
Caris a tenté 3 fois, sans succès, de traverser la Méditerranée, 2 fois en Zodiac, à partir des plages de l'est de Tanger, et la 3e fois au niveau de ce qu'il appelle la barrière, le grillage de 6 mètres de haut qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta, des routes que connaît très bien Youssoufa. Pendant 9 ans, il a rêvé d'Europe, mais depuis quelques mois, il a décidé de rester à Tanger. Il vit désormais dans un petit 2 pièces dans la Médina.
Il y a eu trop de sacrifices, trop d'amis qui sont morts à l'eau, qui sont morts à les frontières, tout ça. Et tu les voyais mourir. Même quand tu prends un Oudiak et que tu es dans la mer, sur toi, tu as juste un gilet, en fait. Et tu vas mourir, tu vois. Ça, je l'ai vécu, être en mer comme ça, prendre juste comme ça plusieurs fois, une vingtaine de fois, une trentaine de fois. Sans compter combien tu vas à la barrière, il y a des barbelés, il y a des bouteilles, il y a des trous, il y a des creux, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Les gens qui perdent leurs reins, qui tombent, tu vois. Donc, ce qui m'a encore plus coûté, c'était le pote qui est mort il y a 2 mois et qu'une voiture l'a percuté. Qu'il est mort sur le coup, tu vois. Ça te pousse encore à te dire, c'est quoi le risque en fait. On habitait ensemble, quand on parlait, il avait des rêves, le gars. Il voulait faire des trucs, tu vois, pour lui, pour sa famille, tu vois ce que je veux dire. Et il est où ce rêve maintenant? C'est depuis ce jour-là que tout a changé en fait. Le passé, il t'a déjà pris beaucoup, l'argent, nanana, t'as tout vendu, t'as tout perdu en fait. Et maintenant, même quand t'es stable ici, il y a toujours cette fatigue qui revient à toi en fait. Non, c'est pas facile.
Youssoufa est désormais résident marocain. Il fait partie des 50 000 migrants régularisés depuis 4 ans.
Thibault Lefèvre à Tanger pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Voici Millie Johnson sur France Inter. Miss Celis Blues. Celis Blues sur France Inter. Millie Johnson, moteur.
3, 2, 1, moteur.
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO, le mercredi avec Eva Bétan. Eva, bonsoir, vous avez vu The Rider, c'est une histoire de rodéo chez les Native Americans, comme on dit donc chez les Indiens. Bande annonce d'abord, on se retrouve après.
You know, Lo?
What?
It's hard not rodeoing anymore.
I know it's hard, but can't you please more careful?
I'll take care of you, Lo.
It's traveling come.
I'll take care of you, too.
I believe God gives each of us a purpose. For a cowboy, it's to ride.
I'm a gambling man.
Donc une histoire de rodéo, je vous le disais. Eva, il faut d'abord nous situer un petit peu cette Chloé Zhao, la réalisatrice, parce que son amour pour les Indiens et pour les grands espaces ne tombe pas sous le sens.
Oui, alors d'abord un mot de présentation, parce que c'est assez complexe. C'est le deuxième film d'une réalisatrice chinoise qui vit et travaille aux États-Unis, qui a découvert l'univers des Indiens d'Amérique. Son premier film se passait déjà dans la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Le film était magnifique, ça s'appelait « Les chansons que mes frères ont apprises ». Et là, c'est toujours dans cette même réserve. C'est un mélange de réalité et de fiction. L'acteur dit que ce qu'on voit sur l'écran, c'est 60% sa vie. Il s'appelle Brody Gendreau, il est Sioux, il a vraiment fait du rodéo, il a vraiment failli en mourir. Son père et sa sœur jouent leur propre rôle. Et c'est l'histoire de sa vie après. Comment on fait quand on a perdu sa passion? Alors, c'est l'histoire en quelque sorte d'un Sioux cowboy. Mais c'est vraiment la vérité. Il y a des grands espaces comme dans le western, il y a l'amour du cheval. Et en même temps, c'est l'histoire vue du côté des perdants de la grande histoire, du côté des Indiens d'Amérique. Ce qu'il y a qu'elle fait sans passer, qui est incroyable, c'est combien le rodéo, même si on risque sa vie, c'est quelque chose d'incroyable. Il a un éclair dans les yeux quand il en parle. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans le rodéo? Voilà ce qu'il vous répond, Brady Gendreau.
The love of the game. I don't know what else to say.
C'est l'amour du jeu. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Si vous n'avez jamais fait de rodéo, vous ne pouvez pas comprendre. C'est une sensation physique qui n'a pas d'égal. Essayez de tenir sur l'animal, de faire corps avec lui, c'est excitant. J'aimerais refaire du rodéo, ça a été une part très importante de ma vie. À seulement 2 ans et demi, je montais mon premier mouton. Et de ce jour, je suis tombé amoureux du rodéo.
Ça vaut le coup de risquer sa vie.
Franchement, d'une certaine manière, je cours plus de dangers en dressant des chevaux qu'en faisant du rodéo. Parce que quand je fais du rodéo, cela se passe dans une ville dans laquelle il y a un hôpital. Et la loi exige qu'il y ait une ambulance sur le lieu d'un rodéo. C'est comme cela qu'on m'a sauvé la vie. On m'a dit que si j'avais été à une demi-heure d'un hôpital, je serais mort.
Oui, on le voit dresser un cheval sauvage et c'est assez extraordinaire. Il y a aussi le rodéo, comme le foot peut l'être dans d'autres pays ou comme la boxe a pu l'être à certains moments, comme moyen d'ascension sociale. Vivre dans une réserve indienne, c'est vivre aussi dans des conditions très difficiles pour Dijandro.
Dans tous les groupes sociaux, il y a des gens défavorisés qui font du rodéo avec des rêves de succès, l'espoir de faire quelque chose de leur vie. Dans la réserve, il n'y a pas grand-chose comme opportunité. C'est pourquoi il y a beaucoup de cow-boys indiens qui s'intéressent au rodéo, puis qui en tombent amoureux.
Quand on vit dans une réserve indienne, d'après ce qu'on voit dans ce film et aussi dans le film précédent de la réalisatrice, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, de moyens de gagner sa vie.
Non, pas du tout. C'est un endroit dans le monde qui a été oublié par le progrès. C'est très pauvre. Il y a des centaines d'années de cela, les Indiens d'Amérique étaient des nomades, particulièrement les Sioux. Les Sioux suivaient les bisons depuis le sud du Canada jusqu'au nord du Texas. Un groupe d'Indiennes pouvait monter un tipi et en faire une maison en 12 secondes et le défaire en 10 pour suivre les bisons. Quand les Blancs sont arrivés, ils ont imposé aux Indiens d'Amérique de vivre sur un petit bout de terre. Et les Indiens d'Amérique ont dû changer complètement de mode de vie. Des centaines d'années plus tard, les Indiens d'Amérique ont encore le sentiment qu'ils ne peuvent pas réussir, qu'ils ne peuvent pas quitter la réserve. Ils n'ont pas d'espoir. C'est triste.
Voilà, c'est vraiment un beau film parce qu'il y a une sorte d'authenticité et il y a en même temps un souffle. Et puis il y a aussi ce à quoi sert le cinéma, ça nous montre d'autres choses que notre vie.
Et c'est ça, c'est que ça sert, Eva Bétan, merci beaucoup. Ça s'appelle The Rider, c'est signé Chloé Zhao et c'est en salle ce mercredi.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Et l'édito d'Anthony Bélanger dans Un jour dans le monde. Anthony, le drame de Kemerovo en Sibérie dit beaucoup de choses sur l'état des infrastructures en Russie.
Oui, d'abord et avant toute chose, cet incendie est dans un centre commercial et de loisirs est un drame incommensurable pour toute la Russie et au-delà d'ailleurs. Le décombre macabre, vous savez, s'est arrêté le 25 mars dernier à 64 victimes. Mais je peux déjà vous dire qu'on ne saura probablement jamais le nombre exact des victimes. Comme toujours en Russie, dès que la colère gronde avec raison, les chiffres deviennent politiques. Or, la colère gronde à Kemerovo. Contre la corruption des autorités qui n'ont pas exercé leur pouvoir de contrôle, contre les propriétaires de ce centre commercial qui ont fait passer leur profit personnel avant la sécurité, contre l'état lamentable des infrastructures russes en général. Alors que voit-on ? Eh bien, d'un côté, la Russie dépense 12 milliards de dollars pour la Coupe du Monde de foot 2018 et de l'autre, des routes, des ponts, des aéroports et des trains hors d'âge. La Russie se classe au 93e rang mondial en termes de qualité d'infrastructure, 8 places derrière l'Inde.
Et pourtant, c'est pas du tout évidemment l'image qu'elle renvoie.
Et non, parce que l'image que la Russie renvoie, c'est l'image qu'elle se donne pour beaucoup. Eh bien, la Russie, ce sont les JO de Sochi et ses 40 milliards de dollars dépensés. C'est une armée capable de faire plier l'Ukraine, ce sont d'annexer la Crimée ou de renverser la table en Syrie. La Russie, ce sont 8500 têtes nucléaires, un sixième des terres émergées, le plus vaste pays du monde et le premier producteur de pétrole de la planète. Avant l'Arabie Saoudite. Tout cela est vrai, mais tout cela est avant tout un problème avant d'être une solution. 8500 ogives nucléaires, c'est 8500 armes de destruction massive qui ne servent à rien. C'est leur principe. Mais par contre, qu'il faut entretenir à grands frais. Peu importe que la Russie ait un plus gros bazooka que la France, la Chine ou qui que vous voulez, ou celle que le pays que vous voulez, puisqu'elle ne peut rien en faire. Par contre, savez-vous combien de porte-avions possède la formidable marine russe ?
Eh bien non, je ne le sais pas.
Un seul, comme la France, rien de plus. Elle ne possède guère plus en plus d'une dizaine de sous-marins d'attaque nucléaire, plutôt âgés d'ailleurs, contre 6 pour la France, 10 ans plus récents. L'économie russe est plus petite en somme que celle de la Corée du Sud, son budget militaire plus réduit que celui de l'Arabie Saoudite, et les Russes sont plus pauvres que les Kazakhs. Pour être plus clair, et encore plus clair même, l'économie russe est 2 fois plus petite que celle de la France, alors que sa population est 2 fois plus importante que la nôtre.
Ce qui s'est un peu dit d'ailleurs au moment des élections qui viennent de se passer. Ce que vous voulez dire, Anthony, en tout cas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'investir dans les infrastructures.
Alors oui et non, parce qu'avec la même somme, la même richesse nationale, l'Espagne s'est couverte en 30 ans de voies de TGV, d'autoroutes flambant neuves, d'hôpitaux et d'écoles, au point d'avoir aujourd'hui plus de kilomètres de TGV que la France. Où sont les TGV russes? Où sont les milliers de kilomètres d'autoroutes? Où sont les ports en eau profonde? Les stades de foot, ça oui. Les aéroports neufs en province, ça non. Par contre, des accidents de train, de métro parfaitement prévisibles, et bien des incendies meurtriers, ça absolument partout. Juillet 2014, 24 morts dans le déraillement du métro de Moscou. Juillet 2015, 23 soldats tués dans l'effondrement de leur caserne à Omsk. Décembre 2015, 23 morts dans l'incendie d'une clinique psychiatrique à Voronezh. Pour les mêmes raisons, l'incendie dans 2 structures équivalentes des cliniques publiques avait défait 2 ans plus tôt, en 2013, 37 et 38 morts dans la région de Novgorod et de Moscou, et j'en passe, et des dizaines d'autres. Voilà pourquoi la colère gronde à Kemerovo, parce que les Russes savent parfaitement que ce qui est dépensé en armes, en guerre lointaine et en arsenal nucléaire inutile n'a pas été investi dans la sécurité et l'entretien de leur centre commercial.
Anthony Bélanger, dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. Et puis tiens, j'en profite, comme tous les derniers jeudis de chaque mois, Anthony, on va vous retrouver demain. Nous sommes donc le 29, ça commence à 19h à l'Institut du Monde Arabe, les rendez-vous de l'actualité, et vous parlerez de...
La Somalie cette fois.
Eh bien écoutez, pour ceux qui seront là, donc rendez-vous demain jeudi 19h. Merci beaucoup Anthony. Le 18-20 continue avec le journal de Sébastien Paour, et puis le téléphone sonne aussi, on parlera de maternelle ce soir.